Donc lui, Jean Lourton Cru, qui était un ancien capitaine de l'armée française, qui a donc fait la guerre, et qui a décidé à partir des années 20, très agacé par le succès populaire, parce qu'on ne s'imagine même pas la production de l'époque sur la guerre et les chiffres de vente, quoi, c'était vraiment phénoménal, agacé par cette chose, décide de faire un travail scientifique d'évaluation des productions à la fois romanesques et de témoignages de la Première Guerre mondiale. Il le fait selon 9 critères dans lesquels je ne vais pas entrer, parce qu'on n'a pas le temps, mais il en ressort qu'il y a un certain nombre d'écrivains, comme Barbus, Dorgelès, les plus connus, remarque l'écrivain allemand, qui veulent qu'on reconnaisse la valeur documentaire de leurs écrits, mais qui, à l'examen, racontent un tout petit peu n'importe quoi. Donc, qui, pour complaire à un public, en viennent à reconduire malgré eux, ou volontairement, les codes de la grammaire épique dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les rivières de sang et les amas de cadavres, et les offensives à la baïonnette, etc. Là où ça devient peut-être encore plus intéressant, c'est que il y a d'autres écrivains, et un autre écrivain contemporain de Jean Lourton Cru, qui lui aussi a fait la guerre, a écrit des romans de guerre que Jean Lourton Cru critique, qui va en fait écrire un essai qui s'appelle « La littérature et la guerre », dans lequel il va dire cette phrase que je trouve assez incroyable. La littérature de convention, c'est-à-dire le roman, quoi, la littérature de fiction, a sans doute agacé les combattants alors qu'ils la lisaient sous le feu de l'ennemi. Elle doit déjà les choquer beaucoup moins. Elle finira par les divertir, par les abuser et par se substituer astucieusement à leurs propres impressions. Dans 20 ans, ceux qui ont fait la guerre apprendront comment ils l'ont faite dans les ouvrages de ceux qui n'y sont jamais allés. Et je trouve que cette phrase est terrible, proprement terrible, et elle complexifie un tout petit peu le partage qu'opère Lourton Cru, et qui est essentiel, qui a fait date depuis, entre le vrai témoignage et le faux témoignage, entre les vertus guerrières du roman épique et les vertus pacifistes du témoignage. Parce que son but, c'était ça, c'est que les gens, en lisant les témoignages, ne soit pas abusé par l'idéologie de la guerre et qu'il refuse d'y participer. Évidemment, on voit historiquement, il n'a pas gagné, puisque les guerres continuent dans le monde. Mais ce qui, moi, m'intéresse au point de vue littéraire et esthétique, c'est que l'idée même de témoignage, en fait, ne suffit pas. Et je vais peut-être aller encore plus loin en disant que et en m'appuyant sur le livre d'Alexievitch, le témoignage lui-même n'est pas un espace pur. C'est-à-dire, contrairement à ce que pense Lourton Cru, qui voyait dans le témoignage une vertu d'exactitude et de précision, le témoignage des poilus, ce témoignage-là n'est pas imperméable à la culture. Je prends l'exemple d'Alexievitch parce que dans Le cercueil de zinc, qui est son livre consacré à la guerre d'Afghanistan, donc 79 à 89, elle fait des entretiens avec énormément de soldats, d'infirmiers, d'infirmières, et même de parents de soldats disparus en Afghanistan. Et ce qui est très frappant, en fait, dans le discours des soldats, c'est les références constantes à la littérature et au cinéma dans leurs récits des combats. Donc ils vont dire, tiens, ça rappelait ce qu'on faisait à ce moment-là, rappeler une scène de guerre et paix de Tolstoï, ou de tel film de cinéma soviétique. Et même ça va plus loin, ils mesuraient le réalisme de ce qu'ils étaient en train de faire à l'aune des scènes de cinéma. C'est-à-dire que si ce qu'ils étaient en train de faire ressemblait à une scène, donc c'était vrai. Ce qui veut dire que la légende ou le langage de l'épopée, les images immuables de la guerre, pénètrent même celui qui l'a fait, et qui est capable de l'exprimer par lui-même et qui a sur elle un discours critique. Parce que dans le livre d'Alexievitch, ce que racontent les soldats de leur expérience montre clairement qu'ils ont été abusés par le régime soviétique et qu'ils ont en horreur ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu. Donc ce qui un tout petit peu brouille le partage dont je parlais tout à l'heure entre l'exactitude du témoignage et la fable du roman. Puisque je parle d'Alexievitch, peut-être que je vais parler du coup d'un autre de ses livres et qui va me permettre de rejoindre le fil de ma discussion. Je le disais tout à l'heure que la guerre et sa représentation dans les arts ont progressivement coïncidé. C'est-à-dire, ceux qui la font peuvent maintenant la raconter. Il reste que parmi ceux qui la font, beaucoup ne sont pas représentés. Exemple, encore une fois, chez Alexievitch, d'un livre qui s'appelle « La guerre n'a pas un visage de femme ». C'est le premier livre d'Alexievitch qui va faire scandale, parce qu'elle va donner la parole, recueillir plutôt le récit de femmes russes ayant participé à la guerre, et donc à la libération, et donc à la victoire mythique en fait du peuple russe du communisme contre les armées nazies. Évidemment, c'est une histoire occultée, parce que la version officielle, les femmes ne sont pas là. Donc elle fait apparaître dans la représentation une population entière jugée jusque-là indigne de figurer dans la guerre. Mais elle le fait au prix d'une opération qui, d'une certaine manière, réhabilite les idées même de patriotisme et d'héroïsme, puisque toutes ces femmes qui ont participé à la guerre ont elles-mêmes un discours ultra-patriotique, presque amoureux. Elles sont toutes folles de Staline, quoi. Et en même temps, elles ont fait preuve, en tout cas dans leur récit, d'actes héroïques hallucinants, qui n'ont rien à envier à ceux des hommes. Donc pour faire apparaître les femmes dans le discours historique sur la guerre, sur la Deuxième Guerre mondiale, Alexievitch est d'une certaine façon obligé de réhabiliter l'idée même d'héroïsme. Ce qu'elle va ensuite s'appliquer à défaire dans les cercueils de zinc dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on voit qu'il y a une espèce de mouvement qui cherche constamment à faire coïncider la guerre, ceux qui font la guerre avec ceux qui la racontent. Alors certes, dans les livres d'Alexievitch, ce ne sont pas les acteurs eux-mêmes qui prennent la plume pour écrire, mais ces textes ont une valeur documentaire parce qu'elle va recueillir la parole et la consigner, et ensuite, bon, elle fait des corrections, des montages comme elle veut, donc c'est la part artistique, mais le matériau de son travail est un matériau documentaire. Je profite aussi de parler des deux livres du premier livre d'Alexievitch, parce que la Deuxième Guerre mondiale, plus particulièrement la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a vu aussi la naissance d'une arme qui va d'une certaine façon creuser encore plus l'idée que la guerre n'est plus un corps au corps comme on l'a longtemps cru dans la littérature épique, qui est la Kalachnikov, qui a été inventée par un ingénieur soviétique pendant la guerre, mais en fait elle a été industrialisée en 1947. Il l'a conçue pendant la guerre parce qu'il entendait à l'hôpital où il était blessé tous les soldats se plaindre de leur matériel face au matériel allemand qui était beaucoup plus sophistiqué. Et donc c'est sur la base presque documentaire des paroles recueillies des soldats qu'il va fabriquer une arme complètement fiable et qui ne raye jamais. Et cette arme, en fait, va d'une certaine façon participer à son tour à, disons, élargir le champ de la guerre et la transformer. Puisque la Kalachnikov, sur laquelle j'ai écrit ce petit livre, va être l'arme symbolique, en fait, de toutes les guerres anticoloniales, que ce soit en Afrique ou au Moyen-Orient, et qui va devenir ensuite un objet de consommation courante jusqu'à aujourd'hui. Et ça va aussi être l'arme des guerres civiles en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique centrale. Donc on le voit, La guerre cesse de plus en plus d'être une affaire de minorité pour devenir quelque chose de plus démocratisé d'une certaine façon. Et la dernière transformation, peut-être la plus actuelle, c'est que les guerres entre États, France, Allemagne, ces guerres-là ont tendance à disparaître. La dernière grande guerre entre États, c'est peut-être la guerre d'Irak, mais c'est une guerre impériale, c'est un peu différent. Au profit de guerres civiles, comme la guerre de Yougoslavie, la guerre du Liban ou la guerre de Syrie aujourd'hui, internationalisées, c'est-à-dire dans lesquelles des acteurs régionaux et mondiaux interviennent. Donc, si on considère que, comme j'ai la prétention de le faire, que l'essentiel de la guerre aujourd'hui s'effectue sur le modèle de la guerre civile, du déchirement intérieur, et que la guerre civile signifie, de façon générale, l'abolition, en fait, de la séparation entre les civils et les militaires, puisque potentiellement n'importe qui peut prendre des armes, et que même la tenue de l'uniforme des armées n'existe plus, on peut faire la guerre en tenue comme vous et moi là, et que de plus les armées régulières elles-mêmes cherchent de plus en plus à protéger les soldats plutôt que les civils. La hantise des gouvernements aujourd'hui, partout dans le monde, c'est de perdre des soldats. Donc, du coup, on a inventé des drones, bientôt des robots, pour ne plus avoir à faire la guerre. Mais par contre, les morts civiles, on n'y pense pas, et c'est même un objectif de guerre. Donc, si on part du principe qu'il y a un mouvement correctif, disons, de la légende épique, du langage épique, qui va vers l'inclusion dans la représentation de la guerre, de tous ceux qui la font,